Il est 20h30, tu écoutes Radio Campus Tour. Et comme chaque premier mercredi du mois, il est l'heure du rendez-vous football, histoire, culture, épopées et paillettes. C'est Tsigalco United, une heure de radio qui entend traiter le football un peu différemment. Le mois dernier, on a parlé d'épopées, de belles épopées, avec la participation de Benoît, journaliste et spécialiste de l'AJ Auxerre. On a parlé du Deportivo Alavés, finaliste de la Coupe UEFA 2001. Et enfin, on a pu poser quelques questions à Richard Trivino, gardien de but de Guignon, vainqueur de la Coupe de la Ligue en 2000. Cette émission, comme celle qui vient, sont en podcast sur notre site radiocampustour.com. Et ce soir, on part à Paris, direction la capitale, et on va parler de foot, évidemment.
Interception Valdo, qui va lancer Ginola. Ginola face à Goma. C'est en vitesse que ça se joue, il est passé Ginola, il va marquer! Septième but de la saison pour le meilleur buteur du championnat de France actuellement, David Ginola.
Et quand on dit ce soir que tout réussit au Paris Saint-Germain, c'est vrai que Ginola, là encore, fait un geste impeccable, idéal. Il attend bien la sortie de Bruno Martini pour piquer la balle dans un angle, mais complètement fermé.
Ouh, pas mal, il a évité la touche. Donne derrière à Paul Le Guen. Colter, George, on a écarté avec Nouma, George encore. Oh, il est passé.
Oh, il est passé.
Oh, quel but!
Il est passé. Quel festival, George Weah.
Ah, ça, c'est un festival.
Depuis le départ, je crois qu'il a dû toucher le ballon une bonne dizaine de fois.
Bien.
Il est passé.
Bien.
Il est passé.
Bien.
Il a frappé.
Bien.
Et il a marqué.
Quel but de Laurent Le Roy.
Quel but
extraordinaire juste avant la mi-temps. Oh, Laurent Le Roy, 43e. Un exploit formidable.
Oh, il était allé jusqu'à la cathédrale de Saint-Jacques de Compostelle. Il a mis les pieds dans le bénitier. Oh. Fantastique but. À celui-là.
Oh. Attention. Dessus. Non.
C'est pas possible.
C'est incroyable.
Eh ben oui, mais non, pas du tout, pas de PSG. On oublie tout ça, le Paris Saint-Germain occupe médiatiquement une place énorme dans les médias français. Impossible de passer une journée sans entendre parler de près ou de loin du PSG dans l'actualité sportive. De même pour le Paris FC. Pas que je sois sectaire, mais le Paris FC est aussi dans l'actualité depuis le rachat par le groupe LVMH. Et en fait, on pourrait plus facilement parler du Paris FC dans une émission qui aurait pour thématique les financiers et le football que seulement sur l'histoire du football parisien. Une histoire que le Paris FC n'a pas encore vraiment marquée, faute d'un palmarès remarquable. Non, ce soir, on va parler du football parisien, mais de l'autre football parisien. Cet autre football, celui qui a fait germer la passion pour le ballon rond dans la capitale. Un football qui a poussé au pied de la tour Eiffel et dans des enceintes sportives toujours existantes ou disparues. Si on retient Le Havre comme club pionnier du football en France, ou bien le FC 7 pour rester dans les villes portuaires, on prend la direction de la capitale pour voir comment la ville de Paris vit, ou non, au rythme du football. Au menu ce soir, une revue historique des clubs qui ont fait l'histoire du foot à Paris dès la fin du 19e siècle. On parlera du Standard Athlétique, du Gallia Club, du Club Français, du Stade Français et bien d'autres encore. Puis nous prendrons le chemin du grand stade de Colombes, aussi connu sous le nom de stade Yves du Manoir, pour parler du Racing Club de France. Je me suis entretenu avec Philippe Badon, supporter historique des Pingouins et speaker du club. Il nous parlera de l'histoire et de la place du Racing dans le football parisien et français. Enfin, on filera du côté de Saint-Ouen pour parler du Red Star, mythique club du nord de Paris. On parlera de son histoire, son stade Bauer, relativement anachronique et singulier, et aussi de son actualité. Allez, Tsigalco United, spécial foot parisien, c'est parti. Et on remonte le temps quand les premiers clubs se forment à Paris. On va démarrer par une petite polémique historique. Si je vous dis doyen des clubs de football en France, vous allez me dire... Le Havre Athletic Club. On connaît tous un petit peu le mythe fondateur. Le club havrais, créé par des Anglais, les couleurs bleu ciel et marine de l'université d'Oxford, et une création en 1894 pour la section foot du club Omnisport. Et c'est là qu'il y a eu débat. En fait, depuis l'après-guerre et jusqu'aux années 2000, le Havre revendiquait une date de création bien antérieure, 1872. Or, des historiens ont fait des recherches, et à cette époque-là, il y a bien un football club havrais. Mais celui-ci pratique un sport qui, si on en croit la presse de l'époque, s'apparente davantage à du rugby qu'à du foot. D'ailleurs, petite parenthèse, mais jusque dans les années 30 en France, la presse écrite utilise le terme football pour désigner à la fois le foot et le rugby. Tout juste précise-t-on qu'il s'agit de football au rugby ou simplement de football. Il faut donc faire bien attention. Cette confusion rappelle que les deux sports ont une origine commune et que la codification des règles se fait petit à petit à la fin du 19e siècle. Toujours est-il qu'à Paris, un club revendique une date de création plus ancienne que celle du Havre Athletic Club. Il s'agit du Standard Athletic, créé à Paris en 1892. Le club est issu de la fusion de deux entités sportives qui pratiquent le foot et créé par des Anglais travaillant dans la capitale, le Paris Association Football Club et le Gordon Football Club. Gordon est le nom d'un général anglais de l'époque. Le Standard est donc un club issu de fusion et un club essentiellement britannique. C'est normal, à l'époque le football est déjà populaire en Angleterre en termes de pratique. Les jeunes gens anglais qui étudient à Paris ou qui occupent dans la capitale française des emplois qualifiés sont passés par des études supérieures en Angleterre et ils ont donc une solide culture sportive. Aucune raison de stopper, ils emmènent avec eux le ballon rond ou ovale d'ailleurs et ça donne à leur sport favori en France. Ils font la même chose ailleurs et on pourrait égrener la très très longue liste des clubs espagnols, italiens, portugais, africains ou sud-américains créés par des Britanniques. Je reviens au Standard et à ses adversaires aussi. À la fin du 19e siècle et au début du 20e, il n'y a pas encore de fédération de football structurée en France, ni de ligue professionnelle. Le football est un sport émergent et qui se cherche au niveau de ses instances. En 1894, la première compétition officielle est organisée sous l'égide de l'USFSA, l'Union sportive française des sociétés athlétiques. Cet organisme fut d'abord chargé de l'athlétisme, puis prend aussi à son compte quelques sports collectifs, dont le football. Le baron Pierre de Coubertin n'est pas très loin, à l'œuvre dans la création de cette union sportive avec l'aide du Racing Club de France, dont on parlera plus tard dans l'émission, ainsi que du Stade français. Le premier championnat USFSA de 1894 est exclusivement parisien et voit s'affronter en plus du Standard Athletic, l'International Athletic Club, le White Rovers Football Club, le Cercle Athlétique de Neuilly, le Club Français et le Cercle Pédestre d'Asnières. La compétition est une coupe à élimination directe où le Standard remporte l'épreuve. On joue alors terrain de Bécon, près de Courbevoie, en proche banlieue de Paris, dans des terrains laissés libres par le chemin de fer. L'industrialisation, les boulevards et les voies ferrées dégagent de nouveaux espaces dans les villes pour créer des aires sportives. Les anciens champs de manœuvre militaires également. Pour ça, je vous renvoie à l'émission enregistrée l'an dernier avec Thibaut Roy autour de l'histoire des stades et disponible en podcast sur le site de Radio Campus. Jusqu'au début du XXe siècle, ce championnat USFSA réunit donc des clubs parisiens, mais aussi très largement britanniques. Les noms de White Rovers ou International Athletic Club trahissent des origines britanniques et sont en fait des clubs créés par des jeunes gens anglais ou écossais, installés à Paris et qui poursuivent la pratique de leur sport favori. Parmi ces clubs, l'un a un nom bien particulier, le Club Français. Comme son nom l'indique, alors que bien des clubs sont composés de jeunes gens britanniques, ce club créé en 1892 et disparu en 1935 a été créé par des étudiants parisiens des lycées Chaptal et Janson de Sailly et qui avaient fait quelques années d'études en Grande-Bretagne. Le Club Français réside dans les installations sportives qui se créent début 20e au Bois de Boulogne et compte dans ses rangs des joueurs qui seront des premières équipes de France de football ainsi que des membres permanents au sein de l'USFSA. Le Club Français joue en rose et noir et évoluera dans pratiquement tous les stades possibles à Paris, du Bois de Boulogne au Stade Buffalo en passant par le Stade Bécon ou Elisabeth. On vient de parler du championnat de l'USFSA, mais quand apparaît la Fédération française de football en 1919, fédération unique issu de l'USFSA, eh bien un autre championnat de France se met en place. Moins parisien, pas encore professionnel, il démarre en 1927 avec la victoire dans la division dite « Excellence » du Cercle athlétique de Paris. C'est un club omnisport dont la section foot date de 1896 et qui est issu d'un club d'inspiration sport militaire. Ce club est le fruit de plusieurs fusions, dont une avec le Gallia Club, autre club parisien précurseur et issu, comme le Cercle athlétique, du quartier de Charenton. Ce club existe toujours, ce qui n'est pas le cas de tous les clubs précédemment cités. En 1927-1928, le championnat d'excellence est composé de deux groupes, avec plusieurs équipes de province. Belfort, Montpellier, Le Havre ou encore Bordeaux affrontent, pour la capitale, le Stade français. Ce nom résonne encore aujourd'hui, car la section rugby de ce club omnisport est toujours sur le devant de la scène. La section foot, quant à elle, remporte le premier championnat de France digne de ce nom en 1928. Le Stade français, côté foot, c'est un club en rouge et bleu, comme au rugby, champion en 1928 et brillant après-guerre avec une participation à la Coupe d'Europe des villes de foire, l'ancêtre de la Coupe UEFA, en 1965 et 1966. Aujourd'hui, le club de foot du Stade français joue dans les divisions amateurs du district de football de Paris et ça fait bientôt 40 ans qu'il a perdu le statut pro durant les années 80. À cette même époque, c'est-à-dire entre les années 1900 et les années 1920-30, il y a encore d'autres clubs à Paris qui goûtent aux divisions d'excellence. Citons l'Olympique de Paris, qui joue en vert et noir et dont on parlera en fin d'émission, celui-ci ayant fusionné pour donner naissance au Red Star, ou encore le CASG. CASG comme Club Athlétique des Sports Généraux, encore appelé Club Athlétique de la Société Générale. Oui, oui, la Société Générale, la banque. Il s'agit d'un club créé à Paris en 1903 par Louis d'Orison, directeur de la Société Générale. Le club jouait Porte d'Auteuil, non loin de là où se situent les installations de Roland-Garros. Un club en ciel et blanc qui a compté dans ses rangs Jean Boyer, grande star du foot français avant-guerre et qui fera les beaux jours de l'Olympique de Marseille. Le club a disparu, même si on peut considérer que le comité d'entreprise de la Société Générale, en organisant des compétitions sportives, notamment de foot, et finalement, quelque part, la continuité de ce CASG. Alors, vous l'aurez compris, dans un contexte de multitude de clubs créés à Paris, comme à Londres, finalement, mais aussi dans une configuration où les ligues sportives sont, elles, aussi nombreuses et concurrentes, sur fond de conflits idéologiques entre ligues amateurs et professionnelles ou laïques et patronage catholique, il a été difficile pour toute une ville de se retrouver derrière les couleurs d'un club qui serait en quelque sorte le club étendard, le club phare de la capitale. Du moins, au début des années 1900, avec une USFSA concurrencée par la Fédération gymnastique et sportive des patronages de France, d'inspiration catholique, et la Fédération des sociétés athlétiques de France, favorable, elle, au professionnalisme, les nombreux clubs parisiens se partagent un palmarès qui reste relativement anecdotique, chacun évoluant dans sa sphère d'influence. Il faut attendre les années 30, l'arrivée du professionnalisme et la création d'un championnat de France unifié, sous l'égide d'une seule fédération et de mêmes règles, pour qu'on commence à voir du foot de très haut niveau dans la capitale française. Les clubs d'inspiration britannique vont peu à peu disparaître et c'est à cette période que va émerger une grande institution du football parisien et français, le Racing Club de France. On en parle dans la deuxième partie de l'émission après une pause musicale. De retour sur Radio Campus Tour, vous écoutez Tsigalco United, la mensuelle foot, histoire, culture et épopée. On écoutait à l'instant Cumulus Frisbee pour le titre Keep Going. Et nous, justement, on va keep going et reprendre le fil de notre émission sur le football parisien, sur cet autre football. Nous avons parlé dans la première partie de l'émission pêle-mêle du Stade français, du Club Athlétique Société Générale, du Standard Athlétique ou encore du Club français. Dans l'entre-deux-guerres, le football français se professionnalise et trouve son unité au sein de la Fédération française de football et d'un vrai championnat de France de première division, créé en 1932 à l'initiative de la marque automobile Peugeot, pionnière dans le professionnalisme, avec son équipe de Sochaux et à l'origine de la Coupe Sochaux en 1932, qui tient lieu de première vraie compétition professionnelle d'élite dans le football français. Et le foot parisien dans tout ça? Eh bien, des 10 équipes qui composent ce premier championnat pour la saison 1932-1933, il y a deux clubs parisiens, le Club français et le Racing Club de France. Alors, le Racing Club de France, on en parle dans cette deuxième partie. Qu'est-ce que c'est? C'est d'abord un club omnisport, créé par des élèves du lycée Condorcet de Paris et qui veulent un club pour pratiquer la course à pied, d'où le nom de Racing. Il leur faut un terrain. Ils obtiennent une concession au Bois de Boulogne dans un parc appelé Croix-Catelan, terrain qui sera longtemps associé au Racing et qui aujourd'hui appartient au groupe Lagardère. La section football du club Omnisport est créée en 1896, un poil plus tardivement que les clubs dont on a parlé dans la première partie, car au Racing, on est très attaché à l'amateurisme et comme en Angleterre, arrive le professionnalisme, ça grince un peu des dents du côté du Racing. La section foot est de toutes les premières côté organisation de football en France. Et bien que farouchement attachée à l'amateurisme, la section foot du Racing participe à de très nombreux matchs internationaux jusque dans les années 20. C'est le président Jean-Bernard Lévy qui appuie l'arrivée du professionnalisme au début des années 30 et avec des internationaux français comme Raoul Diane, le prolifique attaquant Émile Vénante ou Edmond Delfour, le Racing devient une valeur sûre des premiers championnats de France de football. 4 Coupes de France, des belles années dans l'élite du football français, de nombreux internationaux, des stars, des affluences records au Parc des Princes et au Grand Stade de Colombes, un maillot rayé bleu ciel et blanc devenu mythique. On va écouter un vrai passionné du Racing Club de France nous parler du Racing, aussi appelé les Pingouins. J'ai interviewé Philippe Badon, speaker du Racing, supporter et amoureux du club. Bonjour Philippe Badon, vous êtes un supporter historique ainsi qu'un bénévole membre actif du Racing Club de France Football. Depuis quand date votre passion pour le Racing Club de France?
Alors si vous voulez, moi j'ai pas eu trop le choix parce que quand je suis né en 1957, donc ça commence à dater, mon père était un fervent supporter du Racing. Donc, tout petit, j'ai suivi les traces familiales parce que nous, à la maison, c'était le Racing et rien d'autre. Il n'était pas question de parler d'autre chose. Donc, mes premiers souvenirs, c'est les matchs à l'ancien parc, des Princes, pour suivre le Racing. Et ça, c'est jusqu'en 1964, puisque c'est là que le Racing a abandonné le professionnalisme. Donc, c'est depuis toujours, si je puis dire.
Alors, vous venez parler du Parc des Princes. Le Racing, c'est aussi l'histoire de deux stades, le Parc des Princes et le stade Yves du Manoir de Colombes. Alors, le Parc des Princes, dans son ancienne mouture avec la piste Vélodrome et le stade Yves du Manoir, époque Grand Stade de Colombes, vous êtes attaché à ces deux enceintes mythiques?
Oui, on est attaché, bien sûr, parce que le stade Yves du Manoir, ça a toujours été le camp de base et jusqu'à 2023, ça a été toujours le fief du Racing. Et l'ancien parc, moi, je n'ai pas connu les heures de gloire. Vous savez, les anciens, ils appelaient ça le Racing Caviar. Mais moi, j'ai juste des souvenirs d'enfants de l'ancien parc. J'ai beaucoup plus de souvenirs avec du manoir qu'à l'ancien parc.
Et pourquoi ce surnom de Racing Caviar qu'effectivement, j'ai trouvé dans la presse d'époque?
Et parce que c'était tellement du beau jeu, c'était tellement bien léché, c'était tellement du beau football que les anciens comparaient ça à du caviar.
Alors, votre passion, elle est née, on l'a compris, à une époque où le Racing Club de France ou Racing Club de Paris, selon les dénominations, comptait parmi les clubs les plus importants du championnat de France de première division. Aujourd'hui, vous considérez que vous supportez un club qui compte toujours ou bien un club à dimension régionale parisienne à la poursuite d'un passé glorieux?
Je penche plutôt pour la deuxième solution que vous venez d'évoquer, c'est-à-dire que malheureusement, aujourd'hui, le Racing, au niveau où on est, on n'intéresse plus énormément. Alors, aujourd'hui, on vit un peu dans l'ombre du rugby, parce que les gens ont un peu tendance à nous confondre, mais malheureusement, pour l'instant, et depuis de nombreuses années, on est un peu au fond du trou, quoi, si je puis dire. Mais on a quand même une bonne étoile parce que malgré tous les problèmes qu'on a eus ces dernières années, on n'est pas disparu. Et ça, c'est plus important quand même.
Alors le Racing Club, on va repréciser pour ceux qui découvrent un peu le football, c'est aussi un maillot mythique, hein, blanc, bleu ciel à rayures horizontales. Comment, encore aujourd'hui en 2025, vous êtes accueilli quand vous allez jouer à l'extérieur en tant que Racing avec ce maillot un peu culte dans les clubs de la région parisienne ou ailleurs en France quand vous jouez en National 2?
Alors, en région parisienne, l'accueil, il n'y a rien à dire sur l'accueil. Par contre, et ça rejoint un peu ce que je vous disais au début, c'est que quand on se déplace en province, on trouve toujours des gens pour nous dire « Ah, ce maillot !» Mais quel souvenir, parce que beaucoup de gens qui habitent en province aujourd'hui ont vécu en région parisienne. Et quand ils voient ce maillot-là, ça leur rappelle tout un tas de souvenirs. C'est Ujlaki, c'est Marche, c'est toute cette époque-là. Encore l'année dernière, à Dinan, on est tombé sur quelqu'un qui nous racontait sa vie, si je puis dire. Tellement ce maillot évoque tous ses souvenirs quand il vivait en région parisienne. Et malheureusement, avec le temps, c'est encore une chose qui tend à disparaître.
Alors, dans les années 80, la famille Lagardère investit beaucoup d'argent dans le Racing, qui devient temporairement le Matra Racing. On est alors 40 ans avant notre époque d'hyper-libéralisation du football, dans un modèle de naming et d'utilisation du foot comme support de communication. Qu'est-ce que vous pouvez nous raconter de cet intermède Matra qui a laissé des traces autant positives que négatives, je crois?
Alors, quand M. Lagardère est arrivé, c'était une bonne nouvelle pour nous parce que nous, on végétait en division 3 à l'époque, même si on avait fait un petit peu parler de nous en 1982, parce que figurez-vous qu'en Coupe de France, en 32e de finale en 1982, on joue au Parc des Princes, on joue contre le Grand Saint-Étienne, et alors et notre capitaine à cette époque-là, au Racing, c'est quand même un certain Jean-Michel Larquet. Donc, on avait fait un petit peu parler de nous à cette époque-là, là, avec ce 32e de finale. Et bien sûr, quand M. Lagardère est arrivé avec tous ses moyens, on y a cru. On a cru qu'on allait relever la tête et qu'on allait pouvoir lutter à armes égales avec, premièrement, les grands clubs français et puis les clubs européens. Mais malheureusement, ça n'a pas marché.
Ça n'a pas marché malgré l'arrivée de noms très ronflants. Luis Fernandez, transfuge du Paris Saint-Germain, Enzo Francescoli, il y a eu Rabah Madjer, il y a eu le joueur allemand Pierre Littbarski, Pascal Olmeta, des grands noms du football. On pourrait dire que c'était un peu la constitution d'une équipe de rêve avant l'heure. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Quand on voit des reportages d'époque, par exemple, on dit que les campagnes d'abonnement au Parc des Princes n'avaient pas réussi à remplir le stade.
Alors déjà le recrutement de tous ces grands noms a fait naître une jalousie, hein, parce qu'il ne faut pas se voiler la face, a fait naître une jalousie des autres clubs. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi j'ai mon idée personnelle, hein, mais je pense qu'on n'aurait jamais dû aller jouer au Parc des Princes. Je pense qu'il fallait rester à Colombes, il fallait sûrement aménager le stade, puisque le stade était bien vieillissant, mais je pense qu'on serait resté à Colombes, on aurait eu notre identité, puisque à Colombes, on était chez nous. Au Parc des Princes, on n'a jamais réussi à attirer beaucoup de public. Je pense que le fait de partir au Parc des Princes a été une grave erreur sur ce plan-là.
Oui, parce que le Parc des Princes, courant des années 80, commence à devenir peu à peu assimilé vraiment au Paris Saint-Germain, qui commence aussi à devenir le club numéro 1 à Paris.
Voilà, tout à fait. Il fallait qu'on garde notre identité. Le Racing, c'était Colombes, il fallait qu'on reste à Colombes, bien sûr. Il fallait faire des aménagements parce que... Mais en barrage contre Nice, on arrive pratiquement à remplir le stade. Et je pense que c'est une grave erreur d'avoir été au Parc des Princes.
Alors, le stade Yves du Manoir, aussi appelé le Grand Stade de Colombes, hein, qui avait accueilli la Coupe du Monde de 1938, il a été sélectionné, il a fait partie des sites olympiques des derniers Jeux Olympiques au mois d'août 2024. Quel avenir aujourd'hui pour ce stade? Parce qu'actuellement, vous n'y jouez plus.
Alors, l'avenir pour le stade, alors oui, ça c'est vraiment un très très gros problème qu'on a en ce moment, puisque ça fait la troisième saison qu'on joue à l'extérieur, pratiquement. La première saison, on a joué à Versailles. La saison dernière, on a joué à Boulogne. Et là, maintenant, nous voulons arriver à Poissy. Donc, nous sommes pratiquement la seule équipe en France, je pense, qui joue tous nos matchs à l'extérieur. Alors, l'avenir, ça s'est un petit peu décanté cette semaine avec le projet du Racing 92 dans la section rugby, qui, après avoir été à l'Arena, maintenant veulent revenir à Colombes. Et pour ce faire, il y a un permis de construire d'un stade de 15 000 places qui a été déposé et accepté, d'après ce qu'on lit dans la presse. Et donc, un tout nouveau stade devrait voir le jour en 2026-2027. Mais l'inquiétude qu'on a, nous, section football, c'est est-ce qu'on va avoir droit, et à quel prix, d'utiliser ce stade. C'est, voilà, pour l'instant, on en est là, quoi. Parce que depuis les JO, il n'y a rien qui a bougé au niveau du stade olympique, quoi.
Alors, on va revenir aussi, si on parle du Racing, c'est que c'est un club qui a remporté des titres, Coupe de France, des places d'honneur dans les championnats de première division avant-guerre et dans l'immédiat d'après-guerre. Vous, quel est votre plus beau souvenir de match du Racing ou peut-être un joueur qui vous aura marqué?
Ah bah moi, j'ai été... J'étais au service militaire en 1980 et bien entendu, un peu comme tout le monde, j'étais supporter des Verts, puisque les Verts à l'époque c'était quand même le top dans le football français. Et quand j'ai appris que l'ancien capitaine des Verts, Jean-Michel Larquet, avait signé au Racing, pour moi je crois que ça a été un des plus beaux jours de ma vie, ciel et blanc. Et un match en particulier... Si j'ai un souvenir d'un match en particulier, c'est quand nous sommes montés en 94, quand on est monté en national après des barrages contre Schildigheim. On fait 1-0 chez nous sur le Schwan et on va faire 0-0 là-bas en Alsace. Et là, c'était chaud aussi. Même si c'est un petit niveau, c'était chaud aussi.
Alors, depuis les années 2000, le Racing navigue entre championnat national et CFA, aujourd'hui National 2, National 3. Le club s'est recentré sur le département des Hauts-de-Seine, alors que pendant ce temps, d'abord avec Canal puis QSI, le PSG est devenu un club majeur au niveau français et européen. Est-ce que le Racing a toujours sa place dans le paysage du football parisien?
Bah, oui, je pense que de toute façon, oui. Dans les clubs historiques, il y a le Racing et le Restart. Ces deux clubs-là, je pense, ont leur place dans le football parisien. Le Paris FC aussi, bien sûr, le PSG, n'en parlons pas. Bon, maintenant, c'est sûr que là où nous jouons en National 3, quand on joue à Poissy, pour l'instant, on est au fond du trou, quoi. Malheureusement, tant qu'on ne pourra pas remonter au moins au niveau national et jouer chez nous à Colombes, malheureusement, pour l'instant, c'est un peu notre traversée du désert, là.
Alors, peut-être que beaucoup de personnes en France l'oublient, mais le Racing a laissé des traces jusque de l'autre côté de l'Atlantique, puisqu'il y a un très grand club, un des plus grands clubs d'ailleurs du football argentin, le Racing de Avellaneda, qui joue avec les couleurs du Racing Club de France. C'était d'ailleurs un hommage appuyé au Racing Club. Qu'est-ce que ça vous fait, vous? Est-ce que c'est une source de fierté de savoir que de l'autre côté de l'Atlantique, finalement, les couleurs, elles sont portées par un club de Buenos Aires, mais qui porte aussi fièrement vos couleurs.
Bah, bien sûr, nous, on est très, très conscients de tout le passé qu'on a, même s'il ne faut pas toujours regarder le passé, mais on est très, très contents, très conscients de tout ce passé qu'on a, de tout ce vécu qu'on a, et ces couleurs, que, bien sûr, qui sont connues dans le monde entier. Hein. Ça, c'est sûr que... Même chez nous, hein, vous avez... Bon, c'est pas le même niveau, bien entendu, mais vous aviez quelques années le président de Passy-sur-Eure à l'époque, qui avait choisi aussi ses couleurs ciel et blanc, parce que c'était un aficionado du Racing. Donc c'est vrai que ce maillot connu dans le monde entier, ça nous fait chaud au cœur, quoi.
Et pour qui serait un amoureux de l'histoire du football et du football parisien, Est-ce qu'il y a un endroit où on peut visiter comme une sorte de musée ou voir les trophées, des photos anciennes du Racing Club de France au stade Colombes ?
Non, pour l'instant, il n'y a rien du tout parce qu'il y avait, les trophées qui étaient au siège du Racing Club de France, rue Eblé. Il y a quelques années, il y a eu un projet immobilier, tous ces trucs-là. Donc, pour l'instant, les trophées, non, il n'y a rien de visible. Mais c'était le souhait de certains de monter un petit musée, mais malheureusement, pour l'instant, il n'y a rien de concret à ce sujet-là.
Et enfin, une dernière question. Quand vous habitez la région parisienne, quand des amis, des personnes vous demandent quelle équipe vous supportez, peut-être avec en tête l'idée que vous supportez le Paris Saint-Germain, mais que vous dites que vous êtes un supporter du Racing, quelles sont les réactions des gens autour de vous ? Ce n'est pas compliqué de supporter le Racing dans une ville acquise au Paris Saint-Germain ?
Vous savez, le Racing, c'est comme une fille. Hein. On l'aime un jour, on l'aime toujours. Hein. Donc, si, c'est compliqué, bien sûr. Moi, j'habite à Marne-la-Vallée, par exemple. Le Racing joue à Poissy, on prend les transports, on y va et on est fiers d'y aller, on est content d'y aller, en espérant bien sûr des jours meilleurs. Mais c'est compliqué, bien sûr, c'est compliqué parce qu'aujourd'hui dans la région parisienne, si vous n'êtes pas PSG, malheureusement, on vous regarde un peu bizarrement. Quoi.
Bah, merci beaucoup Philippe Badon.
Bah écoutez, avec plaisir et puis en espérant que le Racing renaisse de ses cendres, un peu comme tel le Félix.
Merci à Philippe Badon pour cette interview. Depuis l'enregistrement de cette interview, le Racing Club de France, qui évolue en National 3, a battu le leader de sa poule, les Lusitanos de Saint-Maur, et ils sont donc à quelques points de pouvoir jouer l'accession en National 2. Les U18, quant à eux, sont sortis avec les honneurs contre Nantes en Coupe Gambardella. Le Racing a donc encore de la ressource et on ne peut que souhaiter revoir les ciels et blancs revenir au plus haut niveau. Ce club est un club qui compte dans le paysage footballistique français. On marque une deuxième pause musicale et on ira du côté de Saint-Ouen pour parler du si singulier Red Star. De retour sur Radio Campus Tours et tu écoutes toujours Tsigalco United. On parle de l'histoire du football parisien ce soir. On arrive dans la dernière partie de cette émission. Juste avant la pause musicale, on a écouté une interview de Philippe Badon, speaker, bénévole et supporter de longue date du Racing Club de France. Avant la création du Paris Saint-Germain, en 1970, le football à Paris est surtout l'affaire de deux clubs, le Racing Club, en ciel et blanc, dans son stade de Colombes ou au Parc des Princes, et le Red Star de Saint-Ouen, en vert. Le Red Star, tu en as déjà entendu parler, car avec son nom clinquant, son aura sociale et qui sonne vraiment foot populaire, le club bénéficie d'une certaine couverture médiatique pour qui aime le football un peu alternatif. À l'origine de ce club, il y a un homme incontournable du football français de l'avant-guerre, Jules Rimet. Né en 1873, Jules Rimet est un lycéen du lycée catholique parisien La Rochefoucauld quand il découvre le football. Jules Rimet devient avocat, il aime le football donc, et il est aussi empreint de cet aspect du catholicisme social où la pratique du sport représente une sorte d'outil de lien social, éducatif et patriotique aussi. Jules Rimet et son frère Modeste créent un club qui est issu de la fusion avec l'Olympique de Paris, qui joue en vert, et dont leur Red Star de Paris va reprendre les couleurs. Le club du Red Star est donc créé en 1897, et quant au nom de Red Star, aucune référence au communisme et au mouvement internationaliste. Il s'agirait d'un clin d'œil, une sorte d'hommage, à la domestique anglaise des frères Rimet, qui évoquait souvent la compagnie maritime Red Star Line, et dont le symbole était une petite étoile rouge sur un pavillon de marine. Le Red Star Club, ou Red Star Olympique, le club changera souvent de dénomination, s'installe d'abord en plein Paris, au Champ de Mars, puis près du métro Grenelle. Toutefois, la vente de terrain du côté de Saint-Ouen, dans ce qui est à l'époque la banlieue de Paris, permet au club de se faire construire un stade. Le stade de Paris, connu aujourd'hui comme Stade Bauer de Saint-Ouen. C'est dans cette commune de la ceinture rouge de Paris, ces villes ouvrières qui votent communistes, que le Red Star démarre son histoire populaire. Le Red Star attire les foules en remportant 4 Coupes de France, en 1921, 22, 23 et 1928, avec des joueurs qui vont rentrer dans la légende, à la fois du Red Star, mais aussi du football tricolore. On peut citer Eugène Maes, un solide attaquant, né en 1890 à Paris, 15 buts en équipe de France, en 11 sélections, avant la Grande Guerre, et une carrière arrêtée à 24 ans après avoir été blessé au front en 14-18. Dénoncé pour propos gaullistes en 1943, Eugène Maes meurt en déportation au terrible camp de Dora-Mittelbau le 30 mars 1945. L'autre star était le gardien Pierre Chériguès. Véritable force de la nature, à la stature trapue et musclée, Chériguès est un pur parisien qui a été le gardien de but du Red Star de 1911 à 1925. Il a été le premier gardien de but français à sortir de ses buts pour dégager les ballons, sur les corners et à jouer au pied dans sa surface. Une véritable attraction qui attire à lui seul des curieux au stade. Le Red Star attire aussi les foules parce que c'est un club parisien qui gagne 4 Coupes de France avant-guerre, 2 titres de champion de division 2 en 1934 et 1939. Le club écrit aussi sa légende avec Rino Della Negra. Alors, il s'agit d'un joueur du club d'origine italienne et qui a joué au Red Star durant l'occupation lors de la saison 1942-43. Ce jeune joueur de 19 ans, qui portera en réalité seulement les couleurs du Red Star avec l'équipe réserve, est fusillé en février 44 avec les autres membres du groupe de résistants Manoukian, la célèbre affiche rouge. Il y a autour de ce joueur, dont les travaux d'historien montrent qu'il a été finalement un joueur peu de temps au club, en équipe réserve, hein, comme on l'a dit, une vraie construction mémorielle, quasi mythologique, celle du joueur du Red Star, engagé politiquement et qui donne sa vie au combat antifasciste. Les ultras du Red Star ont obtenu qu'une tribune du Stade Bauer porte le nom de Rino Della Negra. Alors, c'est aussi le pendant d'une autre histoire moins glorieuse, celle du fondateur du Red Star, on l'a dit, Jules Rimet, qui, comme un certain nombre de dirigeants du football français, durant l'occupation, va bien rentrer dans les instances des ministères dédiés au sport du gouvernement de Vichy, va se mouiller dans ce gouvernement de collaboration, et des travaux d'historien ont même montré que Jules Rimet, pendant l'occupation, a profité de biens qui avaient été spoliés aux Juifs. Et c'est aussi pour ça que, après-guerre, Jules Rimet, qui avait été proposé pour être prix Nobel de la paix pour avoir organisé un événement d'ampleur internationale qui porte le message de la paix entre les peuples, les Coupes du Monde, eh bien, sa candidature ne sera pas retenue par le comité Nobel en raison de son rôle pendant l'occupation et aussi parce que les Coupes du Monde de 1934 et 1938 ont été politisées et politisées par les régimes totalitaires fascistes. Je reviens au Red Star. Après-guerre, il est indirectement impliqué dans ce qui va être la conclusion de notre émission, à savoir que tous les clubs dont on a parlé, que ce soit le Red Star, donc, mais aussi le Racing Club de France ou le Stade Français, eh bien, ce ne sont pas les clubs qui, aujourd'hui, portent les couleurs de la ville de Paris. Alors, à la fin des années 60, les clubs parisiens sont mal en point sportivement, mais aussi en coulisses. Le Racing Club est en proie à des difficultés, à la fois financières et sportives, et tente une improbable fusion avec le club de foot de Sedan pour maintenir son statut pro et rester en première division. Dans les championnats de la fin des années 60, vous avez donc un Racing Club Paris-Sedan assez improbable. Le Red Star, domicilié à Saint-Ouen, ne joue pas autre chose que le ventre mou de la première division. Paris est donc, entre guillemets, sans club. Et c'est là que vont se mobiliser des membres influents de la Fédération Française de Football, mais aussi des entrepreneurs et des personnalités du monde du show business parisien, pour monter un nouveau club à Paris, sur les bases du stade germinois, pour créer le Paris Saint-Germain. Alors il faut se remettre dans le contexte. Les années 70, c'est l'essor des compétitions européennes, qui s'inscrivent définitivement dans le paysage footballistique européen, comme des trophées majeurs. Et puisqu'on parle d'Europe, on est aussi dans la construction européenne, dans la France de Pompidou, puis dans la France giscardienne. Et ailleurs en Europe, les grandes villes comme Madrid, Barcelone, Milan, Turin, Munich ou Amsterdam brillent au niveau européen. Les dirigeants du foot français veulent voir Paris sur la carte du foot. Le Red Star est trop marqué, Saint-Ouen banlieue ouvrière. Le Racing est à la peine. Alors on monte le projet PSG. Un projet qui marche, car on est aussi à l'époque où la radio, toujours, mais surtout la télé, débarque pour commencer à diffuser le football. Et même si la France est alors dans l'euphorie de l'épopée des Verts, dès le début des années 80, le PSG commence à se rendre populaire à Paris, du moins chez les amateurs de ballon rond, en recrutant des vedettes comme Mustapha Daleb, l'attaquant algérien, le Yougoslave Safet Susic, ou les stars françaises Dominique Rocheteau et Luis Fernandez. Excite donc le Racing, qui évolue alors dans le vieillissant stade Yves du Manoir de Colombes, et le Red Star, qui fait juste figure d'objet footballistique un peu folklorique. Ces deux clubs reviendront cependant sur le devant de la scène au début des années 2000. Le Stade de France est sorti de terre entre-temps, et on lui cherche alors un club résident. On tente le Red Star, qui jouait à ce moment-là au Parc des Sports de la Courneuve, pour un match de championnat de France de 2e division contre Saint-Étienne le 10 mars 1999. 48 000 supporters, une affluence record pour de la division 2, mais un loyer exorbitant pour le Red Star qui renonce à l'écrin de Saint-Denis. On tente aussi le Racing, lors d'un match de Coupe de France contre Monaco, le 22 janvier 2000. Même refrain, loyer trop cher, le Stade de France, ça ne sera pas pour le Racing qui reste à Colombes. Depuis, les années ont passé. Après avoir touché le fond et avoir connu les galères dans les championnats de CFA, à un moment où le PSG était loin de tout gagner sur la scène nationale, la fin de l'ère Canal, les clubs parisiens retrouvent peu à peu des couleurs. Pour être le plus précis, et n'oubliez personne, dans l'aventure de ce qui est devenu la marotte du deuxième club parisien, Alain Fleulou, le type des lunettes, oui, a tenté, comme Lagardère, de miser de l'argent sur un club pour se faire de la pub et avoir un deuxième club d'élite à Paris. Il a tenté le Racing, puis c'est à l'US Créteil qu'il a fini par s'investir. Avec une fusion mal née, pour ne pas dire ratée, avec les Lusitanos de Saint-Maur, club communautaire, auteur de quelques saisons héroïques à ce niveau en national. La mayonnaise n'a pas pris plus que cela. Excite donc Créteil. Citons aussi le Noisy-le-Sec Olympique banlieue, qui a joué plusieurs saisons en national à la fin des années 90, début 2000, avec des moyens faméliques, mais un vrai engouement populaire, bénévole et citoyen, des habitants de Noisy-le-Sec. Les jeunes et noirs ont porté haut les couleurs de la banlieue parisienne, mais eux aussi sont retombés au niveau amateur. Alors aujourd'hui, le Red Star est revenu sur le devant de la scène. Peut-être parce qu'il incarne le miroir du PSG. Il est un football populaire, ancré dans un coin de Paris, avec un stade qui sent la pelouse et les sandwichs merguez à la mi-temps. Le stade du club est en train d'être rénové après avoir fait l'objet de moult négociations avec la ville de Paris, mais aussi architectes, supporters attachés à ce stade particulier. un peu à l'image de ce qui se passe au Rayo Vallecano à Madrid, une autre capitale du foot où un club joue les troublions parmi les ogres du foot business. Quant au Racing, il attend désormais de pouvoir revenir à Colombes avec la perspective d'un stade Yves du Manoir complètement refait, d'abord pour cause de Jeux Olympiques, puis parce que leurs homologues rugbymen ont obtenu l'autorisation de refaire complètement l'enceinte. À l'ombre de l'omnipotent PSG, et alors que le Paris FC semble prendre lui aussi le chemin du soft power, avec un déménagement surprenant au stade Jean Bouin, au pied du Parc des Princes, il y a encore à Paris d'autres clubs au passé riche et qui n'ont sans doute pas dit leur dernier mot dans l'écriture du football parisien. Tsigalco United sur l'autre football parisien, c'est fini. On se retrouve le mois prochain pour d'autres épopées en ballon. D'ici là, restez sur le 99.5 et retrouvez le podcast très vite sur Radio Campus Tours. Ciao, ciao, ciao.